Attention, Conerve cette licence ils vont redistribuer ce fichier, license à bout, version, août 999, copyright, C, 999 Association de Bibliophiles Universels, http://abu.nemefer.abu.nemefer, la base de texte de l'Association des Bibliophiles Universels, ABU, est une œuvre de compilation, elle peut être copiée, diffusée et modifiée dans les conditions suivantes. Toute copie à des fins privées, à des fins d'illustration de l'enseignement, ou de recherche scientifique est autorisée, de tout. Diffusion ou inclusion dans une autre œuvre doit, A, soit inclure la précédente licence s'appliquant à l'ensemble de la diffusion ou de l'œuvre dérivée, B, soit permettre au bénéficiaire de cette diffusion ou de cette œuvre dérivée d'en extraire facilement et gratuitement une version numérisée de chaque texte inclus, muni de la présente licence. Cette possibilité doit être mentionnée explicitement et de F, à son clair, ainsi que le fait que la présente notice s'applique au document, extrait, C, permettre aux bénéficiaires de cette diffusion ou de cette œuvre dérivée d'en extraire facilement et gratuitement la version numérisée originale, munie le cas échéant des améliorations visées au paragraphe 6, si elles sont présentes dans la diffusion ou la nouvelle œuvre. Cette possibilité doit accent circonflexe, très mentionné explicitement et de façon claire, ainsi que le fait que la présente notice s'applique aux documents extraits, dans tous celles et autres cas, la présente licence sera réputée s'appliquer à l'ensemble de la diffusion ou de l'œuvre dérivée. 3. L'entête qui accompagne chaque fichier doit être intégralement conservée au sein de la COP. 1. 4. La mention du producteur original doit être conservée, ainsi que celle des contributeurs ultérieurs, toute modification ultérieure, par correction d'erreur, addition de variantes, mise en forme dans un autre format, ou autre, doit être indiquée. L'indication des diverses contributions devra être aussi précise que possible, et datée. 6. Ce copyright s'applique obligatoirement à toute amélioration, par simple correction, d'erreur ou d'oubli mineur, orthographe, phrase manquante, CIST, A, dire ne correspondant P, A, l'adjonction d'une autre variante connue du texte, qui devra donc comporter la présente notice, fin de la licence à bout. Attention, Conerve 7 ans, TTI vont redistribuer ce fichier, id Hugo Schack, id-auteur-hugov, id-copitalbetre, archive http://abu.nemefer.verion, droit, titre à propos de William Expire, genre prose, auteur, R. Hugo, Victor, copitalbert Rémi, note pro, /note pro, fin de l'an, TT, début des fichiers Hugo Schack, à propos de William Expire, vers 64,66, par Victor Hugo, William M. Expire naquit à Trinity et Ford, sur Avance, dans une maison sous les tuiles de laquelle était cachée une profession de foi catholique commença. NT par ces mots, moi John Expire. John était le père de William. La maison, située dans la ruelle Ennely Street, était humble. La chambre où Expire vint au monde était misérable, des murs blanchis à la chaux, des olives noires s'entrecoupant en croix, au fond une assez large fenêtre avec de petites vitres où l'on peut lire aujourd'hui, parmi d'autres noms, le nom de Walter Cott. Ce logis pauvre abritait une famille déchue. Le père de William Expire avait été alderman, son aïeul avait été bailli. Expire signifie secoue, lance, la famille en avait le blason, un bras tenant une lance, arme parlante confirmée, dit, on, par la reine Elisabeth en neuf, est visible, à l'heure où nous écrivons, sur le tombeau de Expire dans l'église de Trinity et Ford, sur, avant on est peu d'accord sur l'orthographe, feu du mot Ayuk, Spire comme nom de famille, on l'écrit diversement Expire, Expar, Expire, Expire, le 10, 8e siècle l'écrivait habituellement Expire, le traducteur actuel a adopté l'orthographe Expire, comme la seule exacte, et donne pour cela des raisons sans réplique. Cette famille expire avec quelques vics, eux originels, probablement son catholicisme, qui la fit tomber peu après la naissance de William. L'alderman expire n'était plus que le boucher John. William expire débuta dans un abattoir, à 15 ans, les manches retroussées dans la boucherie de son père. Il tuait des moutons et des veaux avec pompe, dit Aubrey à 10. 8 ans il se maria entre l'abattoir et le mariage. Il fit un quatrain. Ce quatrain, dirigé contre les villages des environs, est son début dans la poésie. Il y déclare que Hillbrook est illustre par ses revenants et Binford, Dé par ses ivrognes il fit ce quatrain étant ivre lui-même, à la belle étoile, sous un pommier resté célèbre dans le pays à cause de ce songe d'une nuit d'été dans cette nuit et, dans ce songe où il y avait des garçons et des filles, dans cette ivresse et sous ce pommier, il trouva jolie une paysanne, Anataouet la noce suivit-il épousa cette Anataouet, plus âgée que lui de 8 ans, en eut une fille, puis 2 jumeaux filles et garçons, et la quitta, et cette femme, disparut de toute la vie de Expire. Ne revient plus que dans son testament où il lui lègue le moins bon de ses 2 lits, ayant probablement, dit un biographe, employé le meilleur avec d'autres expires, comme La Fontaine, ne fit que traverser le mariage à femme mise de côté, il fut maître d'école, puis clerc chez un procureur, puis braconnier. Ce braconnage a été utile plus tard pour faire dire que Expire a été voleur. Un jour, braconnant, il fut pris dans le parc de Sœur Thomas Lucie, on le jeta en prison, on lui fit son procès âprement. Poursuivi, il se sauva à Londres et il se mit, pour vivre, à garder les chevaux à la porte des théâtres. Plot avait tourné une meule de moulin, cet indu, pris de garder les chevaux aux portes existait encore à Londres au siècle dernier, et cela faisait une sorte de petite tribu ou de corps de métier qu'on nommait les Expire Boys. Le Londres du 16e siècle était déjà une ville démesurée. Cheapside était la grande rue, Elgin, Paul, qui est un dôme, était une flèche. La peste était à Londres presque à demeurer chez elle. Comme à Constantinople, il est vrai qu'il n'y avait pas loin de Henri VIII à insultant l'incendie. Encore comme à Constantinople, était fréquent à Londres, à cause des quartiers populaires bâtis tout en bois, il n'y avait dans les rues qu'un carrosse. Le carrosse de la majesté, les mœurs étaient dures et presque farouches. Une grande dame était levée à 6h et couchée à 9h, Lady Geraldine Kildare. Chanté par Lord Duret, déjeunait d'une livre de lard et d'un pot de bière les reines, femmes de Henri VIII, se tricotaient des mitaines volontiers de bonne grosse laine rouge dans ce Londres, là, la duchesse de Suffolk soignait-elle, même son poulailler et, troussé à mi-jambe, jetait le grain au canard dans sa basse, court dîner à midi, c'était dîner tard. Les joies du grand monde étaient d'aller jouer à la main chaude chez Lord Lice. Terran Boleyn y avait joué, elle s'était agenouillée, les yeux bandés, pour ce jeu, s'essayant, sans le savoir, à la posture de l'échafaud. Cette même Anne Boleyn, destinée au trône, d'où elle devait aller plus loin, était éblouie quand sa mère lui achetait 3 chemises de toile, à 6 pence l'aune, et lui promettait, pour danser au bal du duc de Norfolk, une paire de souliers neufs et valant 5 shillings, ou Elisabeth. En dépit des puritains très en colère, il y avait à Londres 8 troupes de comédiens, ceux de Ewing Tonbutte, la compagnie du comte de Pembroke, les serviteurs de Lord Tranche, la troupe du Lord, Chambellan, la troupe du Lord, Amiral, les associés de Blackfriars, les enfants de Haynes, Paul, et, au premier rang, les montreurs d'Our. Lord Ousanton allait au spectacle tous les soirs, presque tous les théâtres, elle s'était située sur le bord de la Tamise, ce qui fit augmenter le nombre des passeurs. Les salles étaient de 2 espèces, les unes, simples cours d'hôtellerie, ouvertes, un tréteau adossé à un mur, pas de plafond, des rangées de bancs posés sur le sol, pour loge les croisées de l'auberge, on y jouait en plein jour et en plein air. Le principal de ces théâtres était le Globe, les autres, des sortes de halles fermées, éclairées de lampes, on y jouait le soir. La plus hantée était Blackfriars. Le meilleur acteur de Lord Pembroke se nommait Henslowe. Le meilleur acteur de Blackfriars se nommait Burbage. Le Globe était situé sur le banquier de cela. Résulte d'une note du Téchion et Holland date du 26 novembre 1967. Ismaletti servant playing usu. Aliat the Globe on the banquier. Les décors étaient simples, 2 épées croisées, quelquefois 2 lattes, signifiaient une bataille. La chemise par, dessus l'habit signifiait un chevalier, la jupe de la ménagère des comédiens sur un manche à balai signifiait un palfroi caparaçonné. Un théâtre riche, qui fit faire son inventaire en 98, possédait des membres de mort, un dragon, un grand cheval avec ses jambes, une cage, un rocher, 4 têtes de turc et celle du dieu Mehemet, une roue pour le siège de Londres et une bouche d'enfer. Un autre avait un soleil, une cible, les 3 plumes du prince de Galles avec la devise Ichedien, plus 6 diables, et le pape sur sa mule. Un acteur barbouillé de plâtre et immobile signifiait une muraille. S'il écartait les doigts, si estime que la muraille avait des lézards d'un homme chargé d'un fagot, suivi d'un chien et portant une lanterne, signifiait la lune, la lanterne figurait son clair. On a beaucoup ri de cette mise en scène de clair de lune, devenue fameuse par le songe d'une nuit d'été, sans se douter que si estime une sinistre indication de Dante voir l'enfer. Chant XX, le vestiaire de ces théâtres, où les comédiens habillaient pêle-mêle, était un recoin séparé de la scène par une loque quelconque tendue sur une corde. Le vestiaire de Black Friard était fermé d'une ancienne tapisserie de corps et métier représentant l'atelier d'un fer. On, par les trous de cette cloison flottante en lambeaux, le public voyait les acteurs se rougir les joues avec de la brique pilée ou se faire des moustaches, est-ce avec un bouchon brûlé à la chandelle de temps en temps, par l'entrebâillement de la tapisserie. On voyait passer une face grimée en morisque, épiant si le moment d'entrer en scène était venu, ou le menton glabre d'un comédien jouant les rôles de femmes glabries histrionnes. Diplôte dans ces théâtres abondaient les gentilshommes, les écoliers, les soldats et les matelots ont représenté là la tragédie de Lord Buckhurst, Gorboduc ou Ferret et Poret, la mère Bombic, de Lily, où l'on entendait les moineaux crier Fip Fip, le libertin, imitation du convivado de Piedrac qui faisait son tour d'Europe. Félix et Philomena, comédie à la mode, jouée d'abord à Greenwich devant la reine Bess, Promo et Cassandra, comédie dédiée par l'auteur George Whetstone à William Fleetwood, recordé de Londres, Le Tamerlan et le Juif de Malte de Christophe Marlowe, des interludes et des pièces de Robert Greene, de George Peel, de Thomas Lodge et de Thomas Kidd, enfin des comédies gothiques, car, de même que la France à l'avocat Patelin, l'Angleterre à l'aiguille de Macomer Gourton, tandis que les acteurs gesticulaient et déclamaient, les gentilshommes et les officiers, avec leurs panaches et leurs rabats de dentelle d'or, debout ou accroupis sur le théâtre, tournant le dos, hautain et à leur aise au milieu des comédiens gênés, riaient, criaient, tenaient des brelans, se jetaient les cartes à la tête, ou jouaient au poste et ne pair, et en bas, dans l'ombre, sur le pavé, parmi les pots de bière et les pipes, on entrevoyait les puants, le peuple, se fouetter par ce théâtre, là que Expire entra dans le drame de gardeur de chevaux, il devint pasteur des haches. Homme, tel était le théâtre vers 8, à Londres, sous la Grande Reine. Il n'était pas beaucoup moins misérable, un siècle plus tard, à Paris, sous le Grand Roi, et Molière, à son début, dut, comme Expire, faire ménage avec d'assez tristes Salilia. Dans les archives de la Comédie française, un manuscrit inédit de 400 pages, relié en parchemin et noué d'une bande de cuir blanc, s'y est-il le journal de Lagrange. Camarade de Molière, Lagrange décrit ainsi le théâtre où la troupe de Molière jouait par ordre du sieur de Rataban, surintendant des bâtiments du roi, trois poutres, des charpentes pourries et étayées, et la moitié de la salle découverte et en ruine ailleurs. En date du dimanche mars 67, il dit, la troupe a résolu de faire un grand plafond qui règne par toute la salle, qui, jusqu'au 10 jours, n'avait été couverte que d'une grande toile bleue suspendue avec des cordages quant à l'éclairage et au chauffage de cette salle, particulièrement à l'occasion des frais extraordinaires qu'entraîna la Psyché, qui était de Molière et de Corneille, on lit ceci, chandelle, 30 livres, concierge, à cause du feu, 3 livres, c'étaient là les salles que le grand règne mettait à la disposition de Molière. Ces encouragements aux lettres n'appauvrissaient pas Louis XIV au point de le priver du plaisir de donner, par exemple, en une seule fois, 200 000 livres à Lavardin et 200 000 livres à d'Épernon, 200 000 livres, plus le régiment de France, au comte de Médavid, 400 000 livres à l'évêque de Noyon, parce que cet évêque était Clermont, Tonnerre, qui est une maison qui a deux brevets de comte et pair de France, un pour Clermont et un pour Tonnerre, 500 000 livres au duc de Vivonne, et 700 000 livres au duc de Quintin, Lorge, plus 800 000 livres à Monseigneur Clément de Bavière, prince, évêque de Liège. Ajoutons qu'il donna 1000 livres de pension à Molière. On trouve sur le registre de Lagrange, au mois d'avril 663, cette mention, vers le même temps, M. de Molière reçut une pension du roi en qualité de bel esprit, et a été couché sur l'état pour la somme de 1000 livres plus tard, quand Molière fut mort, et enterré à Eynt. Joseph, aide de la paroisse Eynt, Eustache, le roi poussa la protection jusqu'à permettre que sa tombe fût élevée d'un pied hors de terre. Expire, on vient de le voir, resta longtemps sur le seuil du théâtre, dehors. Dans la rue enfin il entra, il passa la porte et arriva à la coulisse. Il réussit à être call, boy, garçon à pleurs, moins élégamment, aboyeur vers 86, Expire aboyait chez Green, à Black Friar en 87, il obtint de l'avancement, dans la pièce intitulée, Le géant Agrapardo, roi de Nubie, pire que son frère Feu Angulapé. Expire fut chargé d'apporter son turban au géant puis de comparse, il devint comédien. grâce à Burbage auquel, plus tard, dans un interligne de son testament, il légua 36 shellings pour avoir un anneau d'or. Il fut l'ami de Condalet de Hemminges, ses camarades de son vivant, ses éditeurs après sa mort. Il était beau, il avait le front haut, la barbe brune, l'air doux, la bouche aimable, l'œil profond. Il lisait volontiers Montaigne. Traduit par Florio, il fréquentait la taverne d'Apollon. Il y voyait et traitait familièrement d'eux, assidu de son théâtre, d'Équerre, auteur du Gulhorn Book, où un chapitre spécial est consacré à la façon dont un homme du bel air doit se comporter au spectacle, et le docteur Imon Forman qui a laissé un journal manuscrit contenant des comptes rendus des premières représentations du marchand de Venise et du comte d'Hiver. Il rencontrait Sir Walter Raleigh au CL, hub de la Irène à peu près vers la même époque. Mathurin Régnier rencontrait Philippe de Béthune à la Pomme de Pin. Les grands seigneurs et légers antilsommes d'alors attachaient volontiers leur nom à des fondations de cabaret à Paris. Le vicomte de Montauban, qui était Créqui, avait fondé le Tripot des 11 000 Diables, à Madrid. Le duc de Medina Idonia, l'amiral malheureux de l'invincible Armada, avait fondé El Puno, en Rostroé. À Londres, Sir Walter Raleigh avait fondé la Irène. On était là ivrogne et bel esprit, en 89. Pendant que Jacques V d'Écosse, dans l'espoir du trône d'Angleterre, rendait ses respects à Élisabeth, laquelle, 2 ans auparavant, le 8 février 1987, avait coupé la tête à Marie Thuard, mère de ce Jacques, Expire fit son premier drame, Périclès en 9, pendant que le roi catholique rêvait, sur le plan du marquis d'Astorga, une seconde armada, plus heureuse que la première en ce qu'elle ne fut jamais mise à flot. Il fit Enivi en 93, pendant que les jésuites obtenaient du pape la permission expresse de faire peindre les tourments, S et supplices de l'enfer sur les murs de la chambre de méditation du collège de Clermont, où l'on enfermait souvent un pauvre adolescent qui devait, l'année d'après, rendre fameux le nom de Jean Châtel. Il fit la Ovage apprivoisée en 94, pendant que, se regardant de travers et prêt à en venir aux mains, le roi d'Espagne, la reine d'Angleterre et même le roi de France disaient tous les trois, ma bonne ville de Paris. Il continua et compléta Henri VI en 9, pendant que Clément VIII, à Rome, frappait solennellement Henri IV de son bâton sur le dos des cardinaux du Perron et d'Ossa. Il fit Timon d'Athènes en 96, l'année où Élisabeth publia un édit contre les longues pointes des rondaches, et où Philippe il chassa de sa présence une femme qui avait haine en se mouchant. Il fit Macbeth en 97, pendant que ce même Philippe il disait au duc d'Albe, vous mériteriez lâche, non parce que le duc d'Albe avait mis à feu et à sang les pays, bah, mais parce qu'il était entré chez le roi sans se faire annoncer. Il fit Cymbeline et Richard III en 98, pendant que le comte d'Essex ravageait l'Irlande ayant à son chapeau un gant de la Vierge, reine Élie, abbesse. Il fit les deux gentilshommes de Vérone, le roi Jean, peine d'amour perdue, la comédie d'erreur, tout est bien qui finit bien. Le Honge d'une nuit d'été et le Marchand de Venise en 99, pendant que le Conseil privé, à la demande de la Majesté, délibérait sur la proposition de mettre à la question le docteur Hayward pour avoir volé des pensées à Tacite, il fit Roméo et Juliette en 6, pendant que l'empereur Rodolphe faisait la guerre à son frère révolté et ouvrait les quatre veines, à son fils, assassin d'une femme, il fit Comme il vous plaira, Henri IV, Henri V et Beaucoup de bruit pour rien en 6. Pendant que Bacon publiait l'éloge du supplice du comte d'Essex, de même que Leibnitz se devait, 4, 20 ans plus tard, énumérer les bonnes raisons du meurtre de Monaldeschi. Avec cette différence pourtant que Monaldeschi n'était rien à Leibnitz et que d'Essex était le bienfaiteur de Bacon, il fit la 12e nuit ou ce que vous voudrez en 62, pendant que, pour obéir au pape, le roi de France, qualifié renard de Béarn par le cardinal neveu Aldobrandini, récitait son chapelet tous les jours, les litanies le mercredi et le rosaire de la Vierge Marie le samedi, pendant que 15 cardinaux, assistés des chefs d'ordre, ouvraient à Rome le débat sur le molinisme, et pendant que le Haïnt, Liège, à la demande de la couronne d'Espagne, sauvait la chrétienté et le monde par l'institution de la congrégation de Auxilis, il fit Othello en 63, pendant que la mort d'Élisabeth faisait dire à Henri IV, elle était vierge comme le suis catholique, il fit Hamlet en 64, pendant que Philippe III achevait de perdre les pays, bah, il fit Jules César et Mesure pour Mesure en 66, dans le temps où Jacques Ier d'Angleterre, l'ancien Jacques V d'Écosse, écrivait contre Bellarmine le Torturateur, et, infidèle à Car, commençait à regarder doucement Villiers, qui devait l'honorer du titre de votre cochonnerie. Il fit Coriolan en 67, pendant que l'université d'York recevait le petit prince de Galles docteur, comme le raconte le père de Heint, Romuald, avec toutes les cérémonies et fourrures accoutumées. Il fit le roi lire en 69, pendant que la magistrature de France, donnant un blanc, saint pour l'échafaud, condamnait d'avance et de confiance le prince de Condé à la peine qu'il plairait à la majesté d'or. Au nez, il fit Troyes-Illu et Cressida en 6, pendant que Ravaillac assassinait Henri IV par le poignard et pendant que le parlement de Paris assassinait Ravaillac par l'écartèlement, il fit Antoine et Cléopâtre en 6, tandis que les morts, expulsés par Philippe III, se traînaient hors des paniers et agonisaient. Il fit le conte d'hiver, Henri VIII et la tempête, il écrivait sur des feuilles volantes, comme presque tous les poètes d'ailleurs. Malherbe et Boileau sont à peu près les seuls qui aient eux accent aigu. Crie sur des cahiers raquants disait à Mademoiselle de Gournay, j'ai vu ce matin M. de Malherbe coudre lui, même avec du gros fil gris une liasse blanche où il y aura bientôt des sonnets. Chaque drame de Shakespeare, composé pour les besoins de sa troupe, était, selon toute apparence, appris et répété à la hâte par les acteurs sur l'original même, qu'on ne prenait pas le temps de copier. De là, pour lui comme pour Molière, le dépècement et la perte des manuscrits peu ou point de registre dans ces théâtres presque forains. Ins, aucune coïncidence entre la représentation et l'impression des pièces, quelquefois même pas d'imprimeur, le théâtre pour toute publication quand les pièces, par hasard, sont imprimées, elles portent des titres qui déroutent. La deuxième partie de Henri VI est intitulée la première partie de la guerre entre York et Lancastre. La troisième partie est intitulée la vraie tragédie de Richard, duc d'York. Tout ceci fait comprendre pourquoi il est resté tant d'obscurité sur les époques où Shakespeare composa ses drames, et pourquoi il est difficile de ne fixer les dates avec précision. Les dates que nous venons d'indiquer, et qui sont groupées ici pour la première fois, sont à peu près certaines. Cependant, quelques doutes persistent sur les années où furent non seulement écrits, mais même joués, Timon d'Athènes, Cymbeline, Jules César, Antoine et Cléopâtre, Coriolan et Macbeth. Il y a ça et là des années stériles, d'autres sont d'une fécondité qui semble excessive. Si Yesti, par exemple, sur une simple note de mer, auteur du Trésor de l'Esprit, qu'on est forcé d'attribuer à la seule année 98 la création de 6 pièces, les deux gentilshommes de Vérone, la comédie d'erreur, le roi Jean, l'onge d'une nuit d'été, le marchand de Venise et tout est bien qui finit bien, que mère intitule peine d'amour gagnée. La date du Henri VI est fixée, pour la première partie du moins, par une allusion que fait à ce drame Nash dans Pierce Penniless. L'année 64 est indiquée pour M. Zur pour mesure, en ce que cette pièce s'y fut représentée le jour de la Heint, Étienne, dont Éminge un autre spécial, et l'année 6 pour Henri VIII. En ce qu'Henri VIII fut joué lors de l'incendie du globe, des incidents de toutes sortes, une brouille avec les comédiens ses camarades, un caprice du Lord, Chambellan, forçait quelquefois Shakespeare à changer de théâtre. La Ovage apprivoisée fut joué pour la paix, première fois en 93, au théâtre de Hounslow, la 12e nuit en 6, à Middle Temple Hall, Othello en 62, au château de Harefield. Le roi Lear fut joué à Whitehall, aux fêtes de Noël 67, devant Jacques Herburbage. Créa Lear Lord Ousanton, récemment élargi de la Tour de Londres, assistait à cette représentation. Ce Lord Ousanton était l'ancien habitué de Blackfriars, auquel Shakespeare, en 89, avait dédié un poème d'Adonis. Adonis était alors à la mode. 25 ans après Shakespeare, le cavalier Marigny faisait un poème d'Adonis tiré bas qu'il dédiait à Louis XIII. En 97, Shakespeare avait perdu son fils, qui a laissé pour trace unique sur la terre une ligne du registre mortuaire de la paroisse de Tratford, sur Avon, 97 Auguste 7, Amnay, Filius William Shakespeare le 6 septembre 6. John Shakespeare, son père, était mort. Il était devenu chef de sa troupe de comédiens. Jacques Ier lui avait donné en 67 l'exploitation de Blackfriars, puis le privilège du globe en 63, Madame Elisabeth, fille de Jacques, et l'électeur palatin, roi de Bohême, dont on voit la statue d'Andulière à l'angle d'une grosse tour de Heidelberg, vinrent au globe voir jouer la tempête. Ses apparitions royales ne le sauvaient pas de la censure du Lord Chambellan. Un certain interdit pesait sur ses pièces, dont la représentation était tolérée et l'impression parfois défendue. Le tome second du registre, redut Hall, on peut lire encore aujourd'hui en marge du titre des trois pièces, comme il vous plaira, Henri V, beaucoup de bruit pour rien, cette mention 4 août. à suspendre les motifs de ces interdictions et Shakespeare avait pu, par exemple, sans soulever de réclamation, mettre sur la scène son ancienne aventure de braconnier et faire de Sir Thomas Lucy un grotesque, le juge Hallow, montrer au public Falstaff tuant le daim et rossant les gens de Hallow et pousser le portrait jusqu'à donner à Hallow le blason de Sir Thomas Lucy, audace aristophanesque d'un homme qui ne connaissait pas Aristophane Falstaff, sur les manuscrits de Shakespeare. Était écrit Falstaff cependant quelque aisance lui était venue, comme plus tard à Molière vers la fin du siècle, il était assez riche pour que le 8 octobre 1998 un nommé Ray Coquinet lui demanda un secours dans une lettre dont la suscription porte à mon aimable ami et compatriote William Shakespeare. Il refut, à le secours, à ce qu'il paraît, et renvoya la lettre, trouvée depuis dans les papiers de Fletcher, et sur le revers de laquelle ce même Ray Coquinet avait écrit Istrio, Mima, il aimait Trinity et Ford, sur, avant où il était né, où son père était mort, où son fils était enterré, il y acheta ou y fit bâtir une maison qu'il baptisa New Place Nudiso, NS acheta ou fit bâtir une maison, car il l'acheta selon Whitehill, et la fit bâtir selon Forbes, et à ce sujet Forbes querelle Whitehill, ces chicanes d'érudits sur des riens ne valent pas la peine d'être approfondies, surtout quand on voit le père Ardouin, par exemple, bouleverser tout un passage de Pline en remplaçant Nopridem par Nompridem, expi. Re-allait de temps en temps passer quelques jours à New Place dans ses petits voyages, il rencontra Itami, chemin à Oxford, et à Oxford l'hôtel de la couronne, et dans l'hôtel l'hôtesse, belle et intelligente créature, femme du digne aubergiste d'Avenant en 66, Madame d'Avenant accoucha d'un garçon qu'on nomma William, et en 644 Sir William d'Avenant, créé chevalier par Charles Ier, écrivait alors de Rochester. Hachez ceci qui fait honneur à ma mère, je suis le fils de Shakespeare, se rattachant à Shakespeare de la même façon que de nos jours M. Lucas, Montigny s'est rattaché à mi, Rabot Shakespeare avait marié ses deux filles, Usanne à un médecin, Judith à un marchand, Usanne avait de l'esprit, Judith ne savait ni lire ni écrire et signait d'une croix en 63. Il arriva que Shakespeare, étant allé à Trinity et Ford, sur, avant, ne plus envie de retourner à Londres peu, être été, il gênait il venait d'être contraint d'emprunter sur sa maison le contrat hypothécaire qui constate cet emprunt, en date du mars 63, et revêtu de la signature de Shakespeare, existait encore au siècle dernier chez un procureur qui le donna à Garrick. Lequel l'a perdu Garrick a perdu de même, si estime Mademoiselle Violetti, sa femme, qui le raconte, le manuscrit de Forbes, avec ses lettres en latin à partir de 63. Shakespeare resta à sa maison de New Place, occupé de son jardin, oubliant ses drames. Tout à ses fleurs il planta dans ce jardin de New Place le premier mûrier qu'on ait cultivé à Trafford, de même que la reine Elisabeth avait porté en 6 les premiers bas de soie qu'on ait vu en anglais. Et le 2 mars 1966, se sentant malade, il fit son testament en testament, dicté par lui, est écrit sur 3 pages, il signa sur les 3 pages, sa main tremblait, sur la première page il signa seulement son prénom William, sur la seconde, Wilma Apra. Sur la troisième, William Happ le 23 avril, il mourut il avait ce jour, là juste 52 ans, étant né le 23 avril 1964 ce même jour 23 avril 1966, mourut Cervantes, génie de la même stature quand Shakespeare mourut, Milton avait 8 ans, Corneille avait 10 ans, Charles Ier et Cromwell étaient deux adolescents, l'un de 16, l'autre de 10, 7 ans, l'espace, le bleu, comme disent les Allemands, n'est certes pas interdit à Shakespeare, la terre voit et parcourt le ciel. Elle le connaît sous ses deux aspects, obscurité et azur, doute et espérance, la vie va et vient dans la mort, toute la vie est un secret, une sorte de parenthèse énigmatique entre la naissance et l'agonie, entre l'œil qui s'ouvre et l'œil qui se ferme ce secret. Shakespeare en a l'inquiétude dans Shakespeare, les oiseaux chantent, les buissons verdissent, les cœurs aiment, les âmes souffrent. Le nuage est, il fait chaud, il fait froid, la nuit tombe, le temps passe, les forêts et les foules parlent, le vaste songe éternel flotte, la sève et le sang, toutes les formes du fait multiple, les actions et les idées, l'homme et l'humanité, les vivants et la vie, les solitudes, les villes, les religions, les diamants, les perles, les fumiers, les charniers, le flux et le reflux des êtres, le pas des allants et venants, tout cela est sur Shakespeare et dans Shakespeare, et, ce génie étant la terre, les morts en sortent, certains côtés sinistres de Shakespeare sont hantés par les spectres. Harper est frère de Dante, l'un complète l'autre, Dante incarne tout le surnaturalisme, Expire incarne toute la nature, et comme ces deux régions, nature et surnaturalisme, qui nous apparaissent si diverses, sont dans l'absolu la même unité, Dante et Expire, si dissemblables pourtant, se mêlent par les bords et adhèrent par le fond. Il y a de l'homme dans Alighieri, et du fantôme dans Expire, la tête de mort passe des mains de Dante dans les mains de Expire. Heure, Ugolin la ronge, Hamlet la questionne peu, être même dégage, T, elle un sens plus profond et un plus haut enseigne, N, T dans le second que dans le premier expire la secoue et en fait tomber des étoiles l'île de Prospero, la forêt des Ardennes, la bruyère d'Armuire, la plate, forme d'Elseneur, ne sont pas moins éclairés que les sept cercles de la spirale dantesque par la sombre réverbérati, ont des hypothèses le que c'est, je, demi, chimère, demi, vérité. Ces bouches-là comme ici expirent autant que Dante laisse entrevoir l'horizon crépusculaire de la conjecture dans l'une comme dans l'autre il y a le possible, cette fenêtre du rêve ouverte sur le réel quant au réel, nous y insistons, expire en déborde, partout la chair vive, expire à l'émotion, l'instinct, le cri vrai, l'accent juste, toute la multitude humaine avec sa rumeur à poésie, si y est-il lui, et en même temps, si y est-il vous comme Homère, expire est élément les génies recommençant, si y est-il le nom qui leur convient, surgissent à toutes les crises décisives de l'humanité, il résume les phases et complète les révolutions. Homère marque en civilisation la fin de la premier et le commencement de l'Europe. Expire marque la fin du Moyen-Âge, cette clôture du Moyen-Âge. Rabelais et Cervantes la font aussi, mais, étant uniquement railleurs, ils ne donnent qu'un aspect partiel. L'esprit de Expire est un total comme Homère. Expire est un homme cyclique, ces deux génies. Et, Homère et Expire, ferment les deux premières portes de la barbarie. La porte antique et la porte gothique, c'était là leur mission, ils l'ont accompli. C'était là leur tâche, ils l'ont fait la troisième grande crise et la Révolution française. Si y est-il la troisième porte énorme de la barbarie, la porte monarchique, qui se ferme en ce moment le 19e siècle l'entend rouler sur ces gondes-là, pour la poésie, le drame et l'art, l'ère actuelle aussi indépendante de Expire que d'Homère, Expire est, avant tout, une imagination. Or, si y est-il là une vérité que nous avons indiquée déjà et que les penseurs savent, l'imagination est profondeur, aucune faculté de l'esprit ne s'enfonce et ne creuse plus que l'imagina. Lyon, si y est-il la grande plongeuse de la science, arrivée aux derniers abîmes, la rencontre dans les sections coniques, dans les logarithmes, dans le calcul différentiel et intégral, dans le calcul des probabilités, dans le calcul infinitésimal, dans le calcul des ondes sonores, dans l'application de l'algèbre à la géométrie, l'imagination est le coefficient du calcul, et les mathématiques deviennent poésie, je crois peu à la science des savants bêtes, la comédie éclate dans les larmes, le sanglot naît du rire, les figures se mêlent et se heurtent, des formes massives, presque des bêtes, passent lourdement, des larves, femme peut, être fumée, on doit, les âmes, libellules de l'ombre, mouches crépusculaires, frissonne dans tous ces roseaux noirs que nous appelons passion et événement à un pôle Lady M. Agbès, à l'autre Titama une pensée colossale et un caprice immense, Quest, ce que la tempête, Troilus et Cressida, les gentilshommes de Vérone, les commères de Windsor, le onge d'été, le conte d'hiver, si est-il la fantaisie, si est-il arabesque, l'arabesque dans l'art est le même phénomène que la végétation dans la nature, l'arabesque pousse, croît, se noue, s'exfolie, se multiplie, verdit, fleurit, s'embranche à tous les rêves, l'arabesque est incommensurable, il a une puissance inouïe d'extension et d'agrandissement, il emplit des horizons et il en ouvre d'autres, il intercepte les fonds lumineux par d'innombrables entres, croisements, et, si vous mêlez à ce branchage la figure humaine, l'ensemble est vertigineux, si y est-il un saisissement on distingue à clair, voix, derrière l'arabesque, toute la philosophie, la végétation vit, l'homme se panthéise, il se fait dans le fini une combinaison d'infini, et, devant cette œuvre où il y a de l'impossible et du vrai, l'âme humaine frissonne d'une émotion obscure et suprême, du reste, il ne faut laisser envahir ni l'édifice par la végétation, ni le drame par l'arabesque, un des caractères du génie. Si est-il le rapprochement singulier des facultés les plus lointaines dessiner un astragal comme Larry, Host, puis creuser les âmes comme Pascal, Si est-il cela qui est le poète, le fort intérieur de l'homme appartient à expire, il vous en fait un. Chaque instant la surprise, il tire de la conscience tout l'imprévu qu'elle contient peu de poète. Le dépasse dans cette recherche psychique plusieurs des particularités les plus étranges de l'âme. Humaines sont indiquées par lui, il fait savamment sentir la simplicité du fait métaphysique sous elle. À complication du fait dramatique, ce qu'on ne s'avoue pas, la chose obscure qu'on commence par craindre et qu'on finit par désirer. Voilà le point de jonction et le surprenant lieu de rencontre du cœur des vierges et du cœur des meurtriers, de l'âme de Juliette et de l'âme de Macbeth. L'innocence a peur et appétit de l'amour comme le scélérat de l'ambition. Périlleux baiser donné à la dérobée, au fantôme, ici radieux, là farouche, à toutes ses profusions, analyse, synthèse, création en chair et en os, rêverie, fantaisie, science, métaphysique, ajoutez l'histoire, ici l'histoire des historiens, là l'histoire du conte, des spécimens de tout, du traître, depuis Macbeth, l'assassin de l'hôte, jusqu'à Coriolan, l'assassin de la patrie, du despote, depuis le tyran cerveau, César, jusqu'au tyran ventre Henri VIII, du carnassier, depuis le lion jusqu'à l'usurier, on peut dire à Hylok, bien mordu, juif, et, au fond de ce drame prodigieux, sur la bruyère déserte, au crépuscule, pour promettre aux meurtriers des couronnes, se dressent trois silhouettes noires, où Hésiode peut être. À travers les siècles, reconnaît les parcs une force démesurée, un charme exquis, la férocité épique, la pitié, la faculté créatrice, la gaieté, cette haute gaieté inintelligible aux entendements étroits, le sarcasme, le puissant coup de fouet aux méchants, la grandeur sidérale, la ténuité microscopique, une poésie illimitée qui a un zénith et un nadir, l'ensemble vaste, le détail profond. Rien ne manque à cet esprit, on sent, en abordant l'œuvre de cet tome, le vent énorme qui viendrait de l'ouverture d'un monde, le rayonnement du génie dans tous les sens. Si est-il à expire, ni jamais un homme a peu mérité la bonne note, il est sobre, si est-il, à coup sûr, William expire, expire est un des plus mauvais sujets que l'esthétique sérieuse agit, a mais eu à régenter, expire, si est-il la fertilité, la force, l'exubérance, la mamelle gonflée, la coupe écumante, la cuve à plein bord, la sève par excès, la lave en torrent, les germes en tourbillon, la vaste pluie de vie, tout par milliers, tout par millions, nulle réticence, nulle ligature, nulle économie, la prodigalité insensée et tranquille du Créateur à ceux qui tâtent le fond de leur poche, l'inépuisable semble en dément ça, il bientôt finit, jamais expire et le semeur d'éblouissème. En à chaque mot, l'image, à chaque mot, le contraste, à chaque mot, le jour et la nuit, raffinement, excès d'esprit, affêterie, gongorisme, si est-il tout cela qu'on a jeté à la tête de expire, on déclare que ce sont les défauts de la petitesse, et l'on se hâte de les reprocher au colosse, mais aussi ceux expire ne respectent rien, il va devant lui, il essouffle qui veut le suivre, il enjambe les convenances, il culbute Aristote, il fait des dégâts dans le jésuitisme, dans le méthodisme, dans le purisme et dans le puritanisme, il met Loyola en désordre et où est-ce l'essence dessus-dessous, il est vaillant, hardi, entreprenant, militant, direct, ton écritoire fume comme un cratère, il est toujours en travail, en fonction, en verve, en train, en marche, il a la plume au poing, la flamme au front. Le diable au corps les talons abuse, il y a des passants mulets à qui si est-il désagréable être fécond, si est-il être agressif, un poète comme Isaïe, comme Juvénal, comme expire, est, en vérité, exorbitant que diable, on doit faire un peu attention aux autres, un seul n'a pas droit à tout, la virilité toujours, l'inspiration partout, autant de métaphores que la prairie, autant d'antithèses que le chêne, autant de contrastes et de profondeur que l'univers. Sans cesse la génération, l'éclosion, l'hymen, l'enfantement, l'ensemble vaste, le détail exquis et robuste, la communication vivante, la fécondation, la plénitude, la production, si est-il trop, cela viole le droit des neutres, voilà trois siècles tout à l'heure que expire, ce poète en toute effervescence, est regardé par les critiques sobres avec cette terre mécontent que de certains spectateurs privés d'IOI, vont avoir dans le sérail, expire n'a point de réserve, de retenue, de frontière, de lacune ce qui lui manque, si est-il le manque nul caisse d'épargne, il ne fait pas carême, il déborde, comme la végétation, comme la germination, comme la lumière, comme la flamme, ce qui ne l'empêche pas de s'occuper de vous, spectateur ou lecteur, de vous faire de la morale, de vous donner des conseils, et d'être votre ami, comme le premier bonhomme La Fontaine venue, et de vous rendre de petits services. Vous pouvez vous chauffer les mains à son incendie. Othello, Roméo, Iago, Macbeth, Iloque, Richard III, Jules César, Oberon, Puck, Ophélia, Desdemona, Juliette, Titania, les hommes, les femmes, les sorcières, les fées, les âmes. Expire est tout grand ouvert, prenez, prenez, en voulez, vous encore, voici Ariel, parole, Macduff, Prospero, Viola, Miranda, Caliban, en voulez, vous encore, voici Jessica, Cordelia, Cressida, Portia, Brabantio, Poloniu, Horatio, Mercutio, Imogen, Pandaru de Troie, Bottom, Thésée et Deus. Si est-il le poète, il s'offre, qui veut de moi, il se donne, il se répand, il se prodigue, il ne se vide pas pourquoi, il ne peut l'épuisement lui est impossible, il y a en lui du sang fond qu'il se remplit et se dépense, puis recommence. Si est-il le panier percé du génie, en licence et audace de langage, expire égal Rabelais, qu'un signe dernièrement a traité de porc, comme tous les hauts esprits en pleine orgie doux, omnipotence. Expire se verse toute la nature, la boit, et vous la fait boire. Voltaire lui a reproché son ivrognerie, et a bien fait. Pourquoi aussi, nous le répétons, pourquoi se expira, il a un tel tempérament, il ne s'arrête pas, il ne se lasse pas, il est sans pitié pour les autres petits estomacs qui sont candidats à l'académie. Cette gastrite, qu'on appelle le bon goût, il ne l'a pas, il est puissant quest, ce que cette vaste chanson immodérée qu'il chante dans les siècles. Clé, chanson de guerre, chanson à boire, chanson d'amour, qui va du roi lire à la reine Mab, et de Hamlet à Falstaff, navrante parfois comme un sanglot, grande comme l'Iliade. A poésie a le parfum acre du miel fait en vagabondage par l'abeille sans ruche ici la PR. Ose, là le vers, toutes les formes, n'étant que des vases quelconques pour l'idée. Lui conviennent cette poésie se lamente et raille le drame de Expire marche avec une sort. Eux de rythme éperdu il est si vaste qu'il chancelle, il a et donne le vertige, mais rien n'est solide comme cette grandeur émue. Expire, frissonnant, a en lui les vents, les esprits, les filtres, les vibrations, les balancements des souffles qui passent, l'obscure pénétration des effluves, la grande serre inconnue de la son trouble, au fond duquel est le calme. Si est-il ce trouble qui manque à Goethe, loué à tort pour son impassibilité, qui est infériorité ce trouble, tous les esprits du premier ordre l'ont ce trouble, et dans Job, dans Eschyle, dans Alighieri ce trouble, si est-il l'humanité hurle la terre. Il faut que le divin soit humain, il faut qu'il se propose à lui, même sa propre énigme et qu'il scène. Inquiète l'inspiration étant prodige, une stupeur sacrée s'y mêle, une certaine majesté d'esprit ressemble aux solitudes et se complique des étonnements. Expire, comme tous les grands poètes et comme toutes les grandes choses, est plein d'un rêve à propre végétation les phares, sa propre tempête l'épouvante. Au-dessus de Expire il n'y a personne, Expire à deux S égaux, mais n'a pas de supérieur. Si est-il un étrange honneur pour une terre d'avoir porté cet homme, on peut dire à cette terre Alma Parens, la ville natale de Expire est une ville élue, une éternelle lumière est sur ce berceau, Trinity et Ford, sur, avant à une certitude que non point Meurne, Rhodes, Colophon, Alamine, Chio, Argos et Athènes, les sept villes qui se disputent la naissance d'Homère, Expire est un esprit humain. Si est-il aussi un esprit anglais, il est très anglais, trop anglais. Il est anglais jusqu'à amortir les rois horribles qu'il met en scène quand ce sont des rois d'Angleterre. Harari, jusqu'à amoindrir Philippe Auguste de vengeance en terre, jusqu'à faire exprès un bouc, Falstaff, pour le charger des méfaits princiers du jeune Henri V, jusqu'à partager dans une certaine mesure les hypocrisies d'histoire prétendue nationale. Enfin il est anglais jusqu'à essayer d'atténuer Henri VIII. Il est vrai que l'œil fixe d'Elisabeth est sur lui, mais en même temps, insistons, oui, car si est-il par là qu'il est grand, oui, ce poète anglais est un génie humain. L'art, comme la religion, a ses équés. Homo Expire est un de ceux dont on peut dire cette grande parole. Il est l'homme, avoir enfanté Expire. Cela grandit l'Angleterre, la place de Expire est parmi les plus sublimes dans cette élite de génie absolu qui, de temps en temps accrue d'un nouveau venu splendide, couronne la civilisation et éclaire de son rayonnement immense le genre humain. Expire et les Gion à lui seul, il contrebalance notre beau 17e siècle français et presque le 18e. Expire est un des poètes qui se défendent le plus contre le traducteur, la vieille vie, aux lances faites à Protée symbolise l'effort des traducteurs résir le génie. Rude besogne, Expire résiste, il faut l'étreindre, Expire échappe, il faut le poursuivre, il échappe par l'idée, il échappe par l'expression rappelée, vous le unsex. Cette lugubre déclaration de neutralité d'un monstre entre le bien et le mal. Cette écrite posée sur une conscience nue, que quelle intrépidité il faut pour reproduire nettement. En français certaines beautés insolentes de ce poète, par exemple le Buttock of the Night, où l'on entrevoit les parties honteuses de l'ombre, d'autres expressions semblent sans équivalent possible, ainsi Green Girl, fille verte, n'a aucun sens en français. On pourrait dire de certains mots qu'ils sont imprenables. Expire. Un sunt lacrimorerum dans le We Have Kissed the Way Kingdoms and Provinces. Aussi bien que dans le profond soupir de Virgile, l'indicible est dit cette gigantesque dépense d'avenir faite dans un lit. Ces provinces saines allant en baiser, ces royaumes possibles s'évanouissant sur les bouts jointes d'Antoine et de Cléopâtre, ces empires dissous en caresses et ajoutant inexprimablement leur grandeur à la volupté. Néant comme eux, toutes ces sublimités sont dans ce mot Kissed the Way Kingdoms, Expire échappe au trad. Ucteur par le style, il échappe aussi par la langue. L'anglais se dérobe le plus qu'il peut au français. Les deux idiomes sont composés en sens inverse, leur pôle n'est pas le même. L'anglais est saxon, le français est latin. L'anglais actuel est presque l'allemand du 15e siècle. À l'orthographe près, l'antipathie immémoriale des deux idiomes a été telle qu'un œuf les Normandais épousèrent Rolstan, évêque de Worcester, pour le seul crime d'être une vieille brute d'anglais ne sachant pas parler français. Ah! Expire résiste par le style, expire résiste par la langue et, cela tout, non, il résiste par le sens métaphysique, il résiste par le sens historique, il résiste par le sens légendaire. Il a beaucoup d'ignorance, ceci est convenu, mais ce qui est moins connu, il a beaucoup de science parfois, tel détail qui surprend, où l'on croit voir sa grossièreté, atteste précisément sa particularité et sa finesse. Très souvent ce que les critiques négateurs dénoncent dans Expire comme l'invention ridicule des un esprit sans culture et sans lettres, prouve, tout au contraire, sa bonne information. Il est sagace et singulier dans l'histoire, il est on ne peut mieux renseigné. Dans la tradition et dans le conte quant à sa philosophie, elle est étrange, elle tient de Montaigne par le doute, et d'Ézéchiel par la vision, pour pénétrer la question shakespearienne, dans la mesure du possible, la résoudre. Toute une bibliothèque est nécessaire, historien à consulter, depuis Hérodote jusqu'à Hume, poète, depuis Chaucer jusqu'à Coleridge, critique, éditeur, commentateur, nouvelle, roman, chronique, drame, comédie, ouvrage en toute langue, documents de toutes sortes, pièces justificatives de ce génie on l'a fort accusé. Il importe d'examiner son dossier au British Museum, un compartiment est exclusivement réservé aux ouvrages qui ont un rapport quelconque avec Expire. Or ces ouvrages veulent être les uns vérifiés, les autres approfondis, labeur après sérieux, et plein de complications, en compter les registres du Tession et Hall, sans compter les registres de Trinity et Ford, sans compter les archives de Bridgewaterhouse, sans compter le journal de Eamon Forman. Il n'est pas inutile de confronter les dires de tous ceux qui ont essayé d'analyser Expire, à commencer par Addison dans Le Spectateur, et à finir par Jaucourt dans l'Encyclopédie. Expire a été, en France, en Allemagne, en Angleterre, très souvent jugé, très souvent condamné, très souvent exécuté. Il faut savoir par qui et comment, où il s'inspire, ne le cherchez pas, si est-il en lui, même, mais où il puise, tâchez de le découvrir. Le vrai traducteur doit faire effort pour lire tout ce que Expire a elle. Où il y a là pour le songeur des sources, et pour le piocheur des trouvailles. Les lectures de Expire étaient variées et profondes. Cet inspiré était un étudiant, arrivé à comprendre Expire. Telle est la tâche, toute cette érudition à ce but, parvenir à un poète. Si est-il le chemin de pierre de ce paradis, forger, vous une clé de science pour ouvrir cette poésie, et de la sorte, vous saurez de qui est contemporain le Thésée du Onge d'une nuit d'été. Vous saurez comment les prodiges de la mort de César se répercutent dans Macbeth. Vous saurez quelle quantité d'Oreste il y a dans Hamlet. Vous connaîtrez le vrai Timon d'Athènes, le vrai Hylok, le vrai Falstaff. Expire était un puissant assimilateur, il s'amalgamait le P. Assez il cherchait, puis trouvait, il trouvait, puis inventait, il inventait. puis créé une insufflation sortait pour lui du lourta des chroniques de Séine, Folio Hildig, âgés des fantômes, fantômes éternels les uns terribles, les autres adorables Richard III, Gloucester, Jean Santerre Marguerite, Lady Macbeth, Regan et Goneril, Claudius, Lear, Roméo et Juliette, Jessica, Perdita, Miranda, Pauline, Constance, Ophélia, Cordélia, tous ces monstres. Toutes ces fées, les deux pôles du cœur humain et les deux extrémités de l'art représentées par des figures à jamais vivantes d'une vie mystérieuse, impalpable comme le nuage, immortelle comme le souffle, la difformité intérieure, Iago, la difformité extérieure, Caliban. Et près d'Iago le charme, Desdemona, et en regard de Caliban la grâce, Titania. Quand on a lu les innombrables livres lus par Expire, quand on a bu aux mêmes sources, quand on s'est imprégné de tout ce dont il était pénétré, quand on s'est fait en soi un fac, similé du passé tel qu'il le voyait, quand on a appris tout ce qu'il savait, moyen d'en venir à rêver tout ce qu'il rêvait, quand on a digéré tous ces faits, toute cette histoire, toutes ces fables, toute cette philosophie, quand on a gravi cet escalier de volume, on a pour récompense cette nuée d'ombre divino, dessus de sa tête, un jeune homme s'est dévoué à ce vaste travail à côté de cette première tâche, reproduire Expire. Il y en avait une deuxième, le commenter l'une, on vient de le voir, exige un poète. L'autre un bénédictin, ce traducteur a accepté l'une et l'autre parallèlement à la traduction de Tcha, que drame, il a placé, sous le titre d'introduction, une étude spéciale, où toutes les questions relatives au drame traduit sont discutées et débattues, et où, pièce en main, le pour et le contre est plaidé ses 30, 6 introductions aux 30, 6 drames de Expire, divisés en 15 livres portant chacun un titre spécial, sont dans leur ensemble une œuvre considérable, œuvre de critique, œuvre de philologie, œuvre de philosophie, œuvre d'histoire, qui côtoie et corrobore la traduction. Quant à la traduction en elle-même, elle est fidèle, sincère, opiniâtre dans la résolution d'obéir au texte, elle est modeste et fière. Elle ne tâche pas d'être supérieure à Expire, le commentaire couche Expire sur elle, à table d'autopsie, la traduction le remet debout, et après l'avoir vu disséquer, nous le retrouvons en vie, pour ceux qui, dans Expire, veulent tout Expire. Cette traduction manquait, on l'a maintenant désormais, il n'y a plus de bibliothèque bien faite sans Expire. Une bibliothèque est aussi incomplète sans Expire que sans Molière. L'eau, ouvrage apparu volume par volume et a eu d'un bout à l'autre ce grand collaborateur, le succès, le peu que vaut notre approbation. Nous le donnons sans réserve à cet ouvrage, traduction au point de vue philologique, création au point de vue critique et historique, si est une œuvre de solitude ses œuvres, là sont consciencieuse et saine la vie sévère conseille le travail austère le traducteur actuel sera, nous le croyons et toute la haute critique de France, d'Angleterre et d'Allemagne l'a proclamé déjà. Le traducteur définitif, première raison, il est exact, deuxième raison, il est complet, les difficultés que nous venons d'indiquer, et une foule d'autres, il les a franchement abordées, et, selon nous, résolu faisant cette tentative. Il s'y est dépensé tout entière, il a senti, en accomplissant cette tâche, la religion de construire un monument, il y a consacré 12 des plus belles années de la vie. Nous, est-ce trouvons bon qu'un jeune homme ait eu cette gravité? La besogne était malaisée, presque effrayante. Recherche, confrontation de texte, peine, labeur sans relâche, il a eu pendant 12 années la fièvre de cette grande audace et de cette GR. Anne des responsabilités, cela est bien à lui d'avoir voulu cette œuvre et de l'avoir terminée. Il a de cette façon marqué sa reconnaissance envers deux nations, envers celle dont il est l'hôte et envers celle dont il est le fils. Cette traduction de Expire, si est en quelque sorte, le portrait de l'Angleterre envoyé à la France à une époque où l'on sent approcher leur auguste des l'embrassement des peuples, si est presque un acte, et si est plus qu'un fait littéraire. Il y a quelque chose de pieux et de touchant dans ce don qu'un Français offre à la patrie, d'où nous sommes absents, lui et moi, par notre volonté avec douleur. Hauteville-Houx, avril 86, fin des fichiers Hugo Chac.